Bienvenue pour Allo Tibé,
présenté par Myriam Piccinali.
Avec la complicité de Ludovic Tirol de 48FM, votre radio en Lozère, à Mende. Nous partons ensemble pour le Tibet, à travers des lectures de textes sacrés et profanes appartenant à la littérature tibétaine ancienne et ses sources indiennes que l'on peut qualifier de littérature d'éveil. Et chers auditeurs, bienvenue dans ce numéro 16 de Allo Tibet, ce voyage vers l'ailleurs, dans les montagnes et les plateaux de l'Asie de l'Est. C'est une culture qui a toujours fasciné les Occidentaux et aussi les explorateurs et aventuriers. Et nous sommes nous-mêmes, je pense, quelque part, des explorateurs et aventuriers. Nous reprenons donc notre livre de Lacham Gyal, autobiographie, En attendant la neige, le titre original tibétain Pukki Chetruk, qui veut dire l'enfant chéri du Tibet, édition, Piquier. Alors, vous avez sans doute bien en mémoire, pour ceux qui sont fidèles et pour ceux qui ne sont pas, j'explique un peu. Nous avons donc commencé depuis quelques numéros ce livre. Lacham Gyal est un écrivain contemporain et on découvre avec ravissement l'enfance puis l'adolescence, en fait avec les mêmes préoccupations et sujets d'amusement que chez nous finalement. Alors je reprends quand même la lecture de la quatrième de couverture parce que pour mettre un petit peu en mémoire les choses. Donc ce roman a été traduit du tibétain par Françoise Robin, professeure à l'INALCO, Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Lorsqu'il était enfant, Lacham Gyal lisait des livres, tout en gardant des moutons sur une haute montagne au nord-est du Tibet. C'est son premier roman que vous tenez entre les mains. Avec malice et tendresse, il raconte l'enfance de quatre amis, trois garçons et une fille, dans un village de Lamdo. Inséparables, ils jouent perchés sur des rochers à parler de leur futur. Roman de l'enfance, car on y lit le bruit des jeux et le passage des saisons, les éclats de rire ainsi que les légendes qui font peur, racontées par Pépé Crinière. À l'émerveillement de l'enfance et aux histoires d'un monde lointain répondent les désenchantements de l'âge adulte. Voilà, je ne sais pas si on le lira en entier, mais enfin, toujours est-il que là, nous en sommes toujours à l'enfance. Alors, avant de lire, je voulais vous préciser quelque chose. Cette expression banale en apparence, en attendant la neige, en réalité, c'est une boîte magique qui ouvre le symbole vivant absolu du Tibet, dont tous les habitants parlent comme du pays des neiges. À tel point que quand on veut parler du Tibet sans alerter des oreilles curieuses, par exemple, on parle des neiges, tout simplement. Et chacun sait de quoi il s'agit. Vous voyez, c'est assez symbolique. Et même dans la culture écrite classique, les textes religieux, qui sont souvent versifiés, le mot « neige » est à lui seul la métaphore absolue du Tibet. Alors, nous reprenons le cours du récit. Vous vous souvenez que dans le dernier épisode, les habitants du village de Marnang ont commencé à bâtir l'école. Ce qui nous intéresse particulièrement dans cette lecture, c'est de lire entre les lignes ce qui est suggéré. Ici, la construction de l'école va se faire sur les ruines d'une ancienne forteresse, allusion à la période impériale du Tibet, de son histoire, de ses structures sociales ancestrales, des lignées des chefs héréditaires. Nous, les enfants, on était absorbés dans un jeu de cache-cache dans les herbes folles quand l'écho des injures de Shupa sans femme nous est parvenu parmi les herbes. Les gens qui n'avaient pas encore embauché et qui se réchauffaient au soleil au pied du mur de la forteresse se sont demandé ce qui était arrivé à Shupa sans femme. Plusieurs ont regardé en pouffant le spectacle que donnait Shupa sans femme. Il était furieux. Misère, misère. Quand le pouvoir de l'empereur n'a pas de limite, la pisse et la merde sont pour la tête des humbles. Misère. Si je suis de la famille du chef de Marnang, ce n'est pas quelques garnements et voyous comme vous qui vont me mettre à l'épreuve. Misère. Vous voulez détruire mon nid, moi l'oisillon qui vole dans le sillon de mes ancêtres, les aigles. Moi, Chepa, le prolétaire. Chepa, sans femme, main derrière le dos, arpentait la foule. Ses fesses faisaient des apparitions intermittentes au travers de son fond de pantalon éculé. Plusieurs personnes ont dit alors. Chepa, on veut juste construire une école pour les enfants. Ce n'est pas après toi qu'on en a. Qu'est-ce qui te prend ? Quelqu'un, la langue bien pendue, a dit. Chepa, sans femme, arrête ta bougeotte. Si tu bouges trop, il n'y a pas que tes fesses qui vont finir par sortir. Et tout le monde s'est esclaffé. Chepa, quelles que soient tes qualités et tes défauts, tu as le cuir d'un bon yak et tu es de la lignée d'une famille de chefs. Même si tu ne peux pas approuver ce qu'on fait pour le bien du village, il n'est pas correct de créer des obstacles. Ne nuis pas aux activités gouvernementales, a dit mon père avec la prestance d'un chef de village. Puis, tout en faisant signe à tout le village, il a proclamé « Allez, tout le monde au travail !» On a tous vu que Chepa sans femme restait perché sur les éboulis. Interdit et totalement immobile. À quoi était-il en train de penser, au fond de lui ? Les habitants de Marnang, retournant avec leurs pioches et leurs pelles en fer, la terre et les cailloux de l'ancienne forteresse d'autrefois, se livraient à l'ample tâche de construire une école sur les vestiges de cette forteresse. Un vent de début de printemps a soufflé, faisant voltiger la terre. Chepa sans femme a essuyé les poussières tombées dans ses yeux. Il a repris des couleurs et, tout en suçant un brin d'herbe folle sèche qui provenait de la forteresse, il a observé l'effervescence des villageois. Les adultes nous ont chassé des vestiges de la forteresse et de ses herbes folles. On s'est alors rabattu sur les éboulis. Où se trouvait Chepa sans femme, et tout en suçant un brin d'herbe comme lui, on a regardé le spectacle des adultes qui construisaient notre école. « Pourquoi tu t'es mis en colère tout à l'heure ? » ai-je demandé à Chepa sans femme. Chepa sans femme s'est adressé à nous avec une grande solennité. « Ces gens-là sont en train de détruire les ruines de la forteresse de ma famille, celle des chefs héréditaires de Marnang. » Bien évidemment que cela m'a mis en colère, tout à fait comme si ces enfants de 6 ou 7 ans étaient des adultes. Tu es de la famille du chef de Marnang ? Lui a demandé Saljeune. Évidemment, a asséné Chepa sans femme. La famille du chef de Marnang, c'est quelle famille ? Quand Nima Denjou a posé cette question, Chepa sans femme n'a pas su lui répondre. Tarfel a demandé. « Chepa sans femme, qui est-ce qui raconte que tu es de la famille du chef de la communauté de Marnang ?» Les enfants adorent poser des questions à tout moment. Chepa sans femme a répondu « C'est Pépé Crinière qui l'a dit. » À ce moment-là, les hommes de Marnang ont abattu les éboulis en surplomb avec poussière et fracas. À compter du jour où l'on a construit l'école nouvelle, tous les habitants du village de Marnang, vieux, adultes ou enfants, ont appris que Chepa sans femme était un descendant des chefs héréditaires de Marnang. Mais personne ne comprenait bien les liens de parenté entre Chepa sans femme et les chefs héréditaires de Marnang. Même Pépé Crinière, qui avait dit que Chepa sans femme était un descendant de la famille du chef, n'était pas très précis à ce sujet. Et il est resté à répéter ses manies, en égrenant son chapelet, laissant sa phrase en suspens. En tout cas, pour nous les enfants, cette question c'était au grand de la tranchée. Elle ne nous concernait pas beaucoup. Ce qui nous concernait, c'était qu'une école allait être construite sur les ruines de la forteresse. Il était très vraisemblable que dans l'histoire de Marnang, il y avait eu un édifice remarquable appelé la forteresse des chefs héréditaires de Marnang. Mais ce qui s'appelait « école » et qui était en cours de construction sous mes yeux, ne s'était encore jamais produit depuis le début de notre ère cosmique. C'était un tournant digne d'être consigné dans les annales historiques du village de Marnang. L'école nouvelle, qui allait être construite à sa place, est devenue le bâtiment le plus remarquable du village. Ses bâtisses en briques rouges étaient superbes. La peinture des portes et des fenêtres avait une odeur de neuf qu'on ne pouvait humer nulle part ailleurs dans tout le village de Marnangue. Devant ces bâtisses neuves, on a érigé un long mât à prière bien blanc, fabriqué à partir d'un tronc provenant de la forêt aux abords du village. Au début, on a pensé que ça devait être comme le mât pour les bannières de victoire qui étaient plantées au centre du Manikang, au carrefour central. Mais par la suite, lorsque le secrétaire Wang a apporté un tissu rouge orné de 5 étoiles jaunes à sa gauche le jour de l'inauguration de l'école, on a vu pour la première fois le spectacle du drapeau rouge aux 5 étoiles flottant au vent dans le ciel de Marnang. L'école flambant neuve est devenue la couronne qui ornait les hauteurs de Marnang. Alors Pépé Crinière a dû modifier le contenu des explications du lieu. Le jour de l'inauguration de la nouvelle école, le secrétaire Wang, cadre de la commune, était tout sourire. Mon père et Pépé Crinière aussi étaient tout sourire. Ce jour où les visages étaient tout sourire ressemblait à un jour de fête. Nous aussi, les enfants, on a couru en tous sens parmi les gens fous de joie. Le secrétaire Wang a placé dans son discours « Aujourd'hui marque un tournant de l'histoire de Marnang ». L'été est arrivé à Marnang. L'humidité déposée sur le sol par la neige des matins d'hiver, apportait maintenant en cadeau la saison des fleurs. Un feuillage abondant poussé sur toutes les branches du grand arbre à naga du carrefour central de Marnang et la source nectar naturel qui sourdait de l'arbre à naga coulait en gazouillant. Dans le damier des champs de blé du village, la brise faisait frémir régulièrement une onde verdoyante et les montagnes et les vallées plus éloignées encore étaient aspergées d'un suc vert. L'été, les jeunes femmes de Marnang se dirigeaient vers les champs. Les personnes âgées qui, en hiver, se chauffaient au rayon du soleil, assises dans les recoins ensoleillés au pied du mur du Manikang, avaient changé de place pour se mettre à l'ombre fraîche de l'arbre à naga qui lui faisait face. Les uns racontant, les autres écoutant les contes et les histoires du roi Guessard de Ling. Mais dès la construction de l'école à Marnang, au début du printemps, les enfants ont été rassemblés dans la cour de l'école, construite sur les vestiges de la forteresse, sur les hauteurs du village, et le raffut de leur lecture a troublé le calme du village. De plus, quand la cloche s'est mise à sonner chaque matin et à chaque pause entre les classes, son écho a tournoyé dans le village de Marnang. Cela va sans dire, mais même aussi dans la vallée isolée tout entière, dans les hautes terres et dans les basses terres de ce paysage de montagne. Était-ce un son de cloche destiné à provoquer le réveil ? Ce son de cloche a graduellement pris le dessus de l'agréable son de la conque d'extrogyre qui provenait du Manikang au carrefour central et des manis qu'on y récitait. Donc deux choses ici à vous dire, un élément culturel avec l'arbre à naga, je crois qu'on en avait déjà parlé. La culture religieuse populaire est très prégnante au Tibet et dans toute la diaspora d'ailleurs. Alors les nagas sont les divinités des sous-sols, des eaux et des rivières. En fait, ce sont des divinités qui sont très anciennes dans l'imaginaire populaire, bien entendu. Liés très certainement aux âges très anciens des premières populations tibétaines. L'arbre à naga conjure le mauvais sort en quelque sorte et favorise même les éléments positifs afin que les nagas soient paisibles. Si nous parlons de nature et culture avec l'expression fameuse de Philippe d'Escola, l'humain dans la culture tibétaine doit respecter les territoires des non-humains. Voilà, c'est comme ça que l'équilibre se fait. Alors, on peut remarquer qu'il y a les sous-entendus du texte, en particulier le son de cloche de l'école qui a pris le dessus sur le son de la conque d'Extrogyre. C'est le coquillage dont la forme d'enroulement est à droite. Et cette conque, cette grande coquille, si vous voulez, avec laquelle on sonne dans les monastères sur les hauteurs, on sonne les heures des pratiques, elle est vraiment symbolique de la religion tibétaine. Et nous reprenons donc la vie de Milarepa, rédigée par son disciple Rishungpa au XIIe siècle, traduction de Jacques Bacot, édition Fayard. Donc on rappelle que c'est qui est Milarepa, donc celui Mila vêtu de coton, Repa vêtu de coton, un des plus grands saints du bouddhisme tibétain qui a vécu donc au XIIe siècle dans ce qui est encore le Tibet médiéval, après la période impériale qui a été donc du 8e au 9e siècle. Après Jésus-Christ. Comment définir cette période? Nous trouvons quelques éléments intéressants dans l'âge d'or du Tibet de Katia Buffetry, Les Belles Lettres, 2019. Donc, cet âge d'or qu'elle situe au 17e et 18e. Je vous lis un extrait. L'acculturation du bouddhisme au Tibet. Du 11e au 13e siècle, le Tibet fut à nouveau dominé par des structures seigneuriales décentralisée. La seconde diffusion du bouddhisme, c'est vraiment la façon classique de le nommer, ou Chidar, la première diffusion du bouddhisme sera lancée de l'extrême ouest grâce au roi Yeshe E. Pour ces dates, c'est 959-1036, et à son neveu Jangchub E. Mais aussi de l'est, donc pour la deuxième diffusion, où s'étaient réfugiés trois moines qui avaient fui le Tibet central. La culture tibétaine s'inscrivit alors dans une perspective bouddhique sous-tendue par le Mahayana, le grand véhicule, dans sa forme particulière du Vajrayana. On a déjà entendu ces mots. Hein. Pendant ce temps, le bouddhisme disparaissait de l'Inde à la suite de l'invasion musulmane. Lors de la première diffusion du bouddhisme, les Tibétains considéraient leur pays comme une terre où régnaient obscurité et démons. Mais une nouvelle perception se fit jour au XIIIe siècle, celle d'un pays bouddhique sous la menace de ses voisins barbares. Cette période sera marquée par une effervescence spirituelle et culturelle. Voilà, on est en plein dedans. Hein. Des Tibétains partirent se former en Inde, des maîtres indiens vinrent enseigner au Tibet. Les grandes écoles du bouddhisme tibétain virent le jour. Vous voyez, ça nous campe un peu, ça nous précise un petit peu le contexte de cette période, de la vie de Milarepa. Donc, pour le Mahayana, c'est le grand véhicule, c'est-à-dire un cadre spirituel dans lequel le fidèle s'engage à s'améliorer lui-même pour le bien de tous les êtres, en fait. C'est ça l'idée. Hein. Et donc, nous le voyons maintenant un petit peu mieux dans ce siècle, qui se situe à une période fondamentale où le bouddhisme assoit ses bases véritablement et où les traductions en particulier deviennent très importantes, notamment du fait que l'Inde traverse une période tumultueuse qui verra notamment la destruction des monastères et donc des bibliothèques, ce qui est extrêmement grave pour eux, pour les bibliothèques, pour cette culture. Et les Tibétains n'auront en fait de cesse de traduire depuis le sanskrit ces textes qui sont fondamentaux pour leur philosophie, et en particulier la phénoménologie dont nous reparlerons. Alors, nous avions laissé Milarepa avec le deuil douloureux de son père et le transfert de succession de ses biens à l'oncle et la tante. Mila a alors 15 ans, et les oncles refusent de leur rendre les biens. Ayant dit, il souffla, se moucha, se leva brusquement, claqua des doigts, secoua le pan de son vêtement et frappa du pied. Bien plus, cette maison même m'appartient. Ainsi, orphelin, sortez d'ici. Disant ainsi, il souffleta ma mère. Il nous frappa, ma sœur et moi, avec la manche de son habit. Alors ma mère s'écria, Père, Mila, trophée de sagesse, vois la destinée de tes enfants. Tu as dit que du fond de la tombe, tu nous verrais. Voici venu le moment de nous voir. Elle dit, et pleurant, elle tomba à la renverse et se roula sur la terre. Nous deux, enfin, nous ne pouvions rien faire pour elle que pleurer. Le frère de ma mère, craignant les nombreux fils de mon oncle, ne pouvait lutter. Les autres gens du pays qui nous aimaient dirent qu'ils compatissaient. Il n'y en avait pas un qui ne pleura. Les autres témoins soupiraient profondément. L'oncle et la tante me dirent « Tu réclames tes biens, mais tu les as. Vous avez préparé un festin aux gens du pays, aux voisins, dilapidant sans compter la bière et la viande. Sont-ce tes biens ? Ce n'est pas moi qui les ai. Les aurais-je ? Que je ne vous les donnerai pas, orphelin. Aussi, si vous êtes riche, faites-nous donc la guerre. Si vous êtes pauvre, jetez-nous des sorts. » Sur ces mots, il sortit. Après lui, ses partisans sortirent également. Ma mère ne cessait de pleurer. Son frère, les parents de Dzessé et nos amis demeurèrent pour consoler ma mère. Et buvant les restes de la bière, il lui disait « Ne pleure pas, les larmes ne servent à rien. Demande quelques biens à tous ceux qui sont ici rassemblés pour le festin. Nous tous ici présents te donnerons ce qu'il faut. L'oncle et la tante même te donneront quelques bonnes choses. » Le frère de ma mère dit encore « Fais ainsi et renvoie ton fils à prendre un art. Puis vous deux, mère et fille, demeurez chez moi et faites la culture de mes champs. Il convient de ne faire que ce qui est utile. De toute façon, il ne faut pas que vous ayez honte devant l'oncle et la tante. » Ma mère répondit « Dépossédée de tous mes biens, je n'en ai jamais rien mendié pour élever mes enfants. Je n'accepterai pas de l'oncle et de la tante une seule parcelle de mon propre bien. Pourtant, j'enverrai mon fils faire ses études. Persécuté par l'oncle et la tante, nous devions encore courir dès le son du tambour, courir encore quand montent les fumées. Ils nous ont couverts d'opprobre. Après cela, je ferai moi-même la culture de mon champ. » Dans le pays de Tsa, au village de Mitongiga, précipice invisible, il y avait un magicien, maître Nimapa, très demandé dans les villages et nommé qui connaît les huit nagas. Ma mère m'envoya chez lui pour l'apprendre à lire. En même temps, nos proches, offrant de leurs propres biens, nous donnèrent chacun deux sortes de choses. Principalement, les parents de Dzessé m'apportaient des provisions, de l'huile et du bois de chauffage. Et même, ils envoyaient Dzessé, là où j'apprenais à lire, pour me consoler. Mon oncle maternel nourrissait ma mère et ma sœur pour qu'elles n'allassent pas travailler ailleurs et mendier. Et parce que son frère ne la laissait pas être pauvre, ma mère faisait le travail commun, un jour filant, un jour tissant. Elle amassa ainsi quelques biens et les choses nécessaires pour ses enfants. Ma sœur servait chez les autres autant qu'elle pouvait. Elle courait dès le son du tambour, courait quand les fumées montent, pour gagner quelques nourritures et quelques habillements. Souffrant de la faim, les vêtements en loques, l'âme abattue, nous n'avons pas été heureux. » Ainsi parla le maître. À ce moment, tous les auditeurs, émus et affligés dans leur cœur, demeurèrent un moment silencieux en versant des larmes. Tel est le deuxième chapitre exposant le plus haut degré de la réalité de la douleur. Chapitre 3. Les méfaits. Alors Rechung dit « Maître, tu nous as dit avoir d'abord fait de mauvaises actions. Comment, je te prie, les as-tu commises ?» J'ai accumulé les péchés par le fait de la magie et de la grêle. « Maître, je te prie, quelles circonstances t'ont amené à apprendre les pratiques de la magie et de la grêle ?» Alors le maître continua. Alors que j'étudiais à Mitongika, un jour j'accompagnais mon maître à la vallée basse de Tsa, où il était invité à présider un grand banquet. Buvant beaucoup de bière, de plus buvant celle que je lui versais de mon côté, et celle que lui versaient tous les religieux, mon maître fut ivre. Il me fit partir en avant avec les présents qu'il avait reçus. J'étais ivre aussi. Comme les chanteurs continuaient, j'eus le désir de chanter. Et comme j'avais une belle voix, j'allais en chantant. Le chemin passait devant ma maison. Et j'arrivais ainsi, tout en chantant, jusqu'à la porte même de chez moi. Dans la maison, ma mère était en train de griller de l'orge, et elle m'entendit. « Qu'est-ce ? » se dit-elle. « Cette voix ressemble à la voix de mon fils. Il n'y a pas plus misérable que nous sur la terre. C'est trop inconvenant à lui de chanter. » Et ne pouvant croire, elle regarda. M'ayant reconnu, elle s'exclama de surprise. Sa main droite lâcha les pincettes. Sa main gauche lâcha le tournoir. Et laissant là le grain se brûler, elle prit un bois dans une main, une poignée de cendre dans l'autre. Elle descendit les grandes marches, sauta les petites et elle fut dehors. Elle me lança la cendre au visage, me frappa du bâton à coups redoublés sur la tête et elle s'écria « Père Mila, trophée de sagesse, voilà le fils que tu as engendré, tu n'as plus de descendance. Vois quels labeurs sont voués la mère et la fille. » Et elle roula par terre, privée de sentiments. À cet instant, ma sœur accourut et dit « Frère aîné, à quoi penses-tu? Vois donc notre mère !» Et comme elle pleurait, je me rendis compte de la réalité. Alors moi aussi, je versais beaucoup de larmes. Tout en pleurant, nous frottions les mains de notre mère et nous l'appelions. Après un moment, elle revint à elle et se leva. Puis, fixant sur moi ses yeux remplis de larmes, elle dit « Alors qu'il n'y a pas plus malheureux que nous sur la terre, est-il saillant de chanter ? Quand j'y pense, moi, ta vieille mère, je suis rongée de désespoir et ne puis que pleurer. » Alors, faisant entendre des lamentations, nous nous mîmes à pleurer tous les trois. Je dis à ma mère « Mère, tu as raison, ne sois pas tellement affligée. Je ferai tout ce que tu désireras que je fasse. » Ce que je voudrais, c'est en haut que tu sois revêtu d'un manteau d'homme, en bas que montés à cheval, tes étriers labourent la nuque de nos ennemis détestés. Cela n'est pas possible, mais tu pourrais faire du mal en usant d'artifices. Je désire qu'ayant appris à fond la magie, l'envoûtement et la grêle, tu détruises ton oncle et ta tante en premier, puis les gens du pays et les voisins qui nous ont fait du mal. Je désire que tu détruises leur race jusqu'au 9e degré. Vois si tu iras. » Je répondis. « Je verrai, mère. Prépare le présent pour le lama et mon viatique. » Pour me faire apprendre la magie, ma mère vendit la moitié du champ petit à petit de peau de bête. Avec le prix, elle acheta une turquoise appelée Grande Étoile Scintillante, un cheval blanc nommé Lion qui n'a pas de frein, aimé dans le pays, deux charges de teinture, deux charges de sucre qui furent consommées tout de suite, et elle acheva les préparatifs de mon départ. Cet épisode assez quand même tragique, hein, de la douleur de la mère, de la manifestation de la cruauté, de l'absence de cœur des parents proches. Et nous en arrivons à la conclusion de cette émission. Et je voudrais vous dire un proverbe. Les Tibétains sont fous de proverbes. Ils en prononcent à toute occasion. Proverbe. Si à 13 ans, on n'a pas de projet, comment devenir le patriarche du village? Vous voyez, c'est assez amusant. Donc, ce proverbe exprime en fait deux choses. L'amour passionné des Tibétains pour leurs enfants et aussi le sens de la responsabilité d'une communauté. Je ne sais pas si c'est une valeur qui est toujours cultivée, mais elle est vraiment au cœur de la culture tibétaine. Je pense qu'elle est au cœur de toute l'humanité, bien sûr. Et sur ces grandes choses et ces belles lectures, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. En vous disant à très bientôt, portez-vous bien.